Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast tout tennis cette semaine. On revient sur la Coupe Davis. Le Canada est champion du monde et ne l'aura pas volé, ou presque. Ça bouge du côté de Tennis Montréal. Hugues Léger a une grosse nouvelle à nous annoncer. On a aussi des bonnes nouvelles pour Bianca Andreescu. Il y a un nouveau membre au sein de son équipe, Hugues Léger, en l'absence de Nicolas Richard. Bonjour, es-tu prêt?
Ok, oui, et c'est parti!
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode du Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale sur la ligne. On est disponible sur toutes les plateformes de balado. On est également diffusé à la radio à BPM Sport sur le site de l'Omnium Banque Nationale et Tennis Canada. Je le disais en introduction, Hugues, Nicolas Richard est absent. Il est présentement dans ses affectations pour la presse. Alors, on va faire l'épisode ensemble comme des grands. Mais les gens qui nous écoutent en version vidéo constateront que il y a une gentille dame à côté de toi, du nom de Nicole Nobert, qui a une nouvelle à annoncer. En fait, les deux, vous avez une nouvelle à annoncer. Hugues, je vais te laisser faire l'annonce officielle qui a été faite cette semaine, parce que c'est une, je vais le dire, c'est une méchante belle nouvelle pour le tennis et pour toi, puis je suis bien content pour toi. J'en dis pas plus, je te laisse faire l'annonce.
Ouais, je suis heureux de vous annoncer donc que je vais devenir le nouveau directeur général de Tennis Montréal. Je prends la succession de Nicole Nobert, qui a été là pendant plusieurs décennies, dont 15 ans à titre de directrice générale. Il y a un changement de garde qui s'opère dans le tennis, vous l'avez vu cette année, avec Valérie Tétrault qui arrive à l'Omnium comme directrice et Andréane Martin du côté de Tennis Québec. Donc, j'ai eu envie, moi, de prendre ce défi-là pour une belle organisation qui est vouée évidemment au développement du tennis à Montréal. À l'accessibilité, à l'entraînement, au développement, tant au niveau loisir qu'au niveau performance avec Tennis Montréal Excellence, donc la gestion de tous les parcs et tous les entraînements qui se font sur l'île de Montréal. Donc, c'est un beau projet que j'ai envie de prendre en main. Et je prends le relève de Nicole Nobert, encore une fois, qui a été une bâtisseuse du tennis au Québec. Hein. Donc, Nicole, merci de te joindre à nous aujourd'hui au podcast.
Mais merci pour la bienvenue. C'est une belle opportunité que vous me donnez pour terminer cette carrière après 50 ans de métier. Je pense qu'on a placé les pions pour l'avenir. On a fait beaucoup, mais il en reste beaucoup à faire. Puis on est surtout dans une période charnière qui va faire en sorte que Tennis Montréal va devenir probablement Tennis Montréal 2.0. Alors, moi, je souhaite... une très belle continuité à Hugues. Bienvenue dans notre équipe. Hugues, je peux te dire qu'on est une petite famille, mais on fait beaucoup de grandes choses. Alors, bienvenue et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.
Merci beaucoup, Nicole. Je suis choyé de prendre ce rôle-là, de prendre la succession aussi dans une organisation qui est bien installée, bien établie, bien en santé aussi. Écoute, on se rejoint aujourd'hui au lendemain de cette victoire en Coupe Davis. Il n'y aurait pas meilleur moyen ou meilleur moment pour entamer un mandat et une nouvelle phase de croissance. Le tennis s'apporte très bien au Canada et à Montréal aussi.
Ben, Hugues, on s'en était parlé hors d'onde. Je vais le faire officiellement en onde. Toutes mes félicitations. Je pense que tu es un candidat tout désigné pour occuper ce poste-là. Nicole, on va parler de vous, mais je veux rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que vous avez un successeur qui a une méchante belle tête de business et surtout une méchante belle tête de tennis. C'est un passionné de tennis qui travaille avec nous au podcast, qui joue au tennis. Il a le tennis dans le sang. À la blague, je dis souvent que Hugues Léger est en train de devenir le nouveau magnat du tennis au Québec. Mais je le pense d'une certaine manière. Puis vous avez un gars qui a toutes les compétences nécessaires. Vous parliez de Tennis Montréal 2.0. Ben, je pense que Hugues va faire tout un travail. Puis surtout, c'est un gars qui a le tennis qui lui coule dans le sang. Là. Vous ne pourriez pas avoir un meilleur candidat, Nicole, pour vous succéder. Et je le pense sincèrement, Hugues, et félicitations une fois de plus. Et maintenant que les fleurs sont lancées, Nicole, on va parler de vous un peu. Écoutez, qu'est-ce que vous allez retenir de ce passage-là à Tennis Montréal? C'est quoi les faits saillants là, de votre carrière à Tennis Montréal?
Ben, en fait, quand j'ai commencé à Tennis Montréal, il y avait 3 activités. Aujourd'hui, on en a 25. On travaillait dans, je dirais, 7 à 9 parcs. On en a maintenant 14. Tout ça s'est fait à petits pas, avec une équipe très restreinte, où nous sommes que 4 pour mener toute cette programmation, ce service, ce qu'on offre à la population. Parce qu'en fait, c'est ça notre mandat. On est associé à la ville comme partenaire pour offrir à la population du tennis. Alors moi, je me suis fait une priorité quand j'ai commencé dans le milieu. J'ai commencé évidemment dans le milieu plutôt privé, dans les clubs privés. À la ville, au tout début de ma carrière, parce que je travaillais pour la ville et je travaillais au Parc Jarry d'ailleurs. Alors j'ai ouvert ma carrière au Parc Jarry, puis je la referme ici, où il y avait 20 terrains de terre battue. Alors, tout joueur de tennis, évidemment, ben, c'est ce qu'on souhaite, c'est d'avoir les plus belles installations. Puis, croyez-moi, quand j'ai commencé à 6 ans ici, puis j'ai jamais arrêté, ben, c'était ce qu'il y avait de mieux avec le parc La Fontaine dans tout Montréal. Alors, ce que je retiens, en fait, c'est du développement, mais c'est aussi le fait d'avoir mis la raquette dans les mains de plus de gens possible, leur avoir donné ce goût-là. Puis je peux vous dire que avec l'annonce de ma retraite la semaine dernière qui s'est faite officiellement, j'ai reçu tellement de beaux commentaires de vraiment les gens de très loin me disaient « Vous m'avez donné le goût de jouer au tennis, je joue encore. » Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait en sorte qu'il y ait plus de gens possible qui vont jouer au tennis toute leur vie. On l'a toujours dit, c'est le sport d'une vie. Ça commence à 3 ans, ça n'a pas de fin. On peut jouer avec des balles mousses quand on n'est plus capable de jouer au vrai tennis. Alors, il n'y a pas de fin. Alors, ça, je pense que c'est ce que j'ai réussi de plus. J'ai voulu éventuellement faire de la haute performance. C'était pas pour moi. Ce qui était pour moi, c'était monsieur et madame tout le monde qui voulait jouer au tennis, qui voulait apprendre. Je pense que j'étais avant tout un entraîneur qui a fait en sorte que j'ai divulgué tout ça. Je suis entourée d'une équipe avec qui j'ai travaillé lorsqu'ils étaient enfants. Je leur ai donné la passion de l'enseignement. Ça aussi, c'est autre chose. Alors, il me reste beaucoup de legs, mais surtout, beaucoup de plaisir à regarder qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années, parce que ça, c'est intéressant. On met quelque chose en place, puis après ça, bien, ça peut aller dans tous les sens, mais là, je pense que ça s'en va bien par en avant. Et je suis bien contente de ce que j'ai fait. Et puis, je pense que les gens autour de moi le sont aussi.
C'est certain que Nicole aura formé, inspiré des générations de joueurs de tennis. C'est ça qui est particulier au Québec en ce moment. On a des bâtisseurs là, qui ont arrêté, qui ont décidé de prendre leur retraite à peu près en même temps. Je pense évidemment à Eugène Lapierre, à Jean-François Manibal, maintenant à Nicole. Donc, il y a des générations de joueurs et de joueuses qui ont été formés par ces gens-là. Et si le tennis est rendu où il est rendu aujourd'hui au Québec et au Canada, c'est grâce à eux aussi. Donc, on est chanceux pour ceux qui prennent la relève maintenant, Valérie, Andréane et moi, de prendre cette situation-là en main là, pour l'avenir.
Ben, tu sais, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, bon, Nicole, vous parliez, l'élite, c'était pas pour vous, mais d'une certaine manière, vous y aurez contribué parce que l'élite, elle se développe par la base et c'est là, dans le récréatif, que tout commence pour tout le monde. Il y a personne qui commence dans le compétitif et c'est un maillon essentiel, celui que vous occupiez pour développer la base et éventuellement cette base-là qui devient l'élite. Alors ça, ben, j'ai l'impression que vous pouvez en être fiers parce que vous avez certainement contribué à l'explosion du tennis qui est devenu le sport qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il y a un cumul de facteurs. Là. Quand on a des grandes vedettes, ça aide, mais quand on peut développer la base, et c'est ce que vous avez fait, notamment à Montréal, vous avez contribué à faire grandir le tennis au Québec et à Montréal particulièrement. Est-ce que vous avez un souvenir, Nicole, là, en particulier, je ne sais pas, une anecdote à raconter, un joueur que vous avez croisé, quelqu'un qui vous a remarqué? J'imagine qu'en 50 ans de carrière, là, il y en a plus qu'une, mais si vous en aviez une à choisir. Hein?
Une vedette qui m'a marqué.
Ça peut être une vedette, mais ça peut être un monsieur de tous les jours aussi, là.
Ah, ben ça, oui, effectivement, j'en rencontre tous les jours. Mais moi, je vous dirais, ce qui me marque le plus, c'est les petits-enfants. Moi, pour moi, là, de les voir s'amuser, puis de les avoir avec moi, je vous dirais, des années entières avec qui je travaillais, où à la fin de chacune des sessions, on allait prendre une petite bouchée, et puis... Pour vous faire rire, ben en fait, j'en avais 12 autour de moi. On allait manger dans un restaurant où on fait des rôtis là, sur une plaque et je devais manger les 12 rôtis parce qu'ils m'en faisaient une chacun. Alors ça, c'est des souvenirs que tu ne peux pas oublier quand tu enseignes à des enfants comment eux, simplement pour te dire merci, comment ils vont le faire. Ça, c'est les yeux pétillants des enfants, ils aiment ça. Ils te revoient toutes les semaines, sont contents. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de toucher aux enfants, mais avant, les enfants, tu les avais autour de toi, puis c'était merveilleux parce que c'était la joie, ils s'amusaient et puis tout ça. Je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus, l'enseignement auprès des enfants. C'est sûr que j'ai fait ma carrière auprès des adultes, mais les enfants, ça fait partie de quelque chose qui, pour moi, même quand je les vois là, encore aujourd'hui, je suis portée à me lever et à regarder comment ça va les petits, comment ils s'amusent, comment ils rient. Le premier sourire qu'un enfant te fait sur un terrain de tennis, ça y est, tu l'as gagné, tu sais que c'est fait. Ça fait toute la différence.
Ouais, puis tu sais, tous les sports, c'est d'abord et avant tout un jeu, puis c'est le fun que vous rameniez le ouais. Sourire, le bonheur de jouer d'abord et avant tout, parce que ultimement, c'est la principale chose, et même au niveau élite, si tu n'as plus de fun à jouer, c'est pas mal plus difficile de performer. En tout cas, j'espère qu'après les 12 toasts, vous n'aviez pas à aller coacher. Le coaching était fait avant, parce que d'après moi, ça doit être l'autre de courir sur le terrain avec 12 toasts. D'accord. Nicole, dites-moi, là, quels sont les chantiers que vous aviez commencé, que vous laissez en place pour Hugues Léger? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'après, Nicole Norbert, à Tennis Montréal?
Ben, il y avait un projet que ça faisait très longtemps que j'essayais de mettre en place, puis qu'on nous demande à Tennis Montréal depuis fort longtemps. Puis Hugues est d'accord là-dessus, puis ça faisait partie de ses projets. Quand moi, je les ai annoncés l'année passée, mon rêve, c'était de faire des murs de pratique parce que je me disais, ben en quelque part, moi, j'ai commencé sur un mur. Puis si vous demandez à la majorité des gens qui jouent au tennis, on a tous commencé sur un mur. On a tous essayé de défoncer un mur, puis il n'y en a pas un qui est tombé parce qu'il gagne tout le temps. Mais il n'en demeure pas moins que les démarches avaient commencé... On en avait déjà fait dans des écoles où on avait fait des programmes de développement dans toutes les écoles où on allait. Moi, je proposais aux éducateurs physiques d'au moins faire un petit setup là, à l'extérieur parce qu'on leur laissait des raquettes, ils pouvaient jouer au tennis, puis ils continuaient le programme. Mais ça ne s'est pas avéré partout pareil. Alors moi, j'avais vraiment cette intention de faire un grand mur ici au stade. Ben d'ailleurs, il va se faire parce que j'avais eu la permission de travailler sur le grand mur arrière par après de faire des petits murs, mais un peu partout où on pourrait justement faire en sorte que ben, il y a une image qui est véhiculée, puis ça demeure et ça reste quelque chose qui pourrait être éventuellement permanent et grandissant. Alors ça, je pense que c'est peut-être un de mes objectifs que j'ai abordé, que j'ai fait faire les soumissions, je me suis rendue presque au bout, mais le temps me manquait, j'ai décidé de prendre ma retraite avant.
C'est un des premiers projets dont on a discuté ensemble d'ailleurs, puis moi aussi je pense que, ben, comme Nicole dit très justement, beaucoup de gens ont commencé à jouer sur un mur, même des grandes vedettes aujourd'hui encore, comme Andy Murray, Federer, ont des murs chez eux, ils ont un terrain, mais ils ont des murs aussi où ils jouent. Et comme on a des icônes maintenant au Québec, hein, avec Félix, avec Léla, avec Eugénie Bouchard avant, il y a plein de joueurs qu'on peut utiliser pour en faire nos ambassadeurs sur les murs des écoles, par exemple, du Québec. Donc, on a tout un projet qu'on est en train de développer là, pour que tout le monde puisse jouer au tennis tous les jours, même s'ils n'ont pas de partenaire éventuellement.
Mais Nicole, la façon dont vous en parlez, puis c'est peut-être moi qui est naïf un peu, mais vous semblez dire que ça semble un peu compliqué, mais je ne sais pas, entre vous et moi, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à tracer une ligne sur un mur d'école? C'est les écoles qui ne sont pas collaboratrices. Est-ce que, je ne sais pas, il me semble dans ma tête, c'est
une carte de peinture. On ne peut pas dire que la majorité ne l'a pas fait, mais vous savez, faire des choses dans les institutions publiques, c'est pas comme quand on a une idée géniale et qu'on le fait le lendemain matin.
Alors, ouais, ça,
il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de demandes aussi. Alors, si moi, je mets des lignes de tennis, pourquoi on ne mettrait pas un panier de basket dessus? Puis on s'entend que les cours d'école sont très sollicités et les directions d'école et les éducateurs physiques ont des choix à faire. Alors, je pense qu'on a peut-être du travail, un peu plus de sollicitations, d'incitations, de ventes, mais là, on n'a plus besoin de vendre notre sport. Alors, c'est toute la différence. Alors, on a toujours dit, le jour où on aura un champion, la ligne sera tracée. On l'a vu au golf, on l'a vu partout, au basket, on le voit partout. On n'est pas différent des autres sports. Alors, à partir du moment où nos vedettes vont nous placer sa sellette telle qu'on est en train de le faire, moi, selon moi, les portes vont s'ouvrir facilement parce que c'est pas nous qui allons le demander, c'est les gens. Et à partir du moment où la population fait une demande, met de la pression, frappe à toutes les portes, croyez-moi, ça se passe.
Oui, ben c'est sûr que, bon, Hugues le dit souvent, la victoire, c'est le meilleur marketing. Quand t'as des grands champions, comme on connaît présentement, ça aide. Hugues, je veux revenir à toi parce que, bon, toi et moi, on se connaît, on travaille beaucoup, on se parle régulièrement, là, si c'est pas presque quotidiennement par bout. Là. Je sais que tu es très occupé, notamment avec le podcast, notamment avec tes business, t'en as quelques-unes. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de dire... Moi, je veux appliquer à Tennis Montréal malgré ton horaire déjà particulièrement chargé.
Ben, c'était une grande question. Hein. Disons que mon impact sur le tennis a été plutôt de l'extérieur que de l'intérieur jusqu'à maintenant. Tant au niveau média qu'au niveau du podcast, évidemment, qui fait partie des médias. J'étais consultant pour Tennis Canada, pour Tennis Québec aussi. Et quand j'ai vu ce mouvement-là qui se mettait en place de changement, il y a un jour où je me suis réveillé, je me dis j'ai envie d'en faire partie de l'intérieur, en fait. Donc, ça a vraiment été un choix. J'aurais pu continuer d'être consultant en externe. Je dis non, il y a une opportunité pour le faire de l'interne. Et c'est ça qui m'a amené à postuler pour ce rôle. Et voilà. Donc, j'ai envie de moi aussi d'avoir vraiment un impact durable sur le tennis. Et maintenant, j'ai la chance, l'opportunité de pouvoir le faire de l'intérieur. Donc, c'est ce qui m'amène dans ce rôle-là.
Et quels vont être tes premiers grands chantiers? Bon, on parlait justement des lignes dans les écoles, etc. Mais quelles sont tes grandes orientations pour...
Ouais.
Te connaissant, tu as des orientations à court, moyen puis long terme pour Tennis Montréal. Là, ça ressemble à quoi?
Ben, le premier grand chantier et ce projet dont on vient de parler en fait partie, c'est l'accessibilité, les infrastructures. Le tennis est en croissance. On a toujours des enjeux d'accessibilité 12 mois par année, surtout à l'intérieur. Donc, il y a des projets importants qu'on va travailler en collaboration avec Eugène Lapierre qui en fait un de ses projets post-carrière. Je n'ai même pas envie de parler de post-carrière pour Eugène parce qu'il est toujours actif. Mais l'accessibilité, l'infrastructure, c'est assurément le premier grand chantier. Le deuxième, on va continuer de progresser tout le volet numérique, de gérer notre base d'abonnés, de joueurs pour qu'ils soient de plus en plus engagés avec nous. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important là, pour les prochaines années aussi. Il y a des bases qui ont été mises en place assurément, mais il faut poursuivre ce volet-là et d'offrir le meilleur service au niveau de la population. Il ne faut pas oublier, notre premier rôle, c'est justement l'accessibilité, le plaisir de jouer, mais d'avoir des programmes intéressants au niveau des ligues, au niveau des tournois, au niveau des cours. Ça commence très tôt, hein, à partir de 3 ans, jusqu'au programme Excellence, où on a du sport-études aussi, ici à Montréal, au stade IGA. Donc, tout le volet programmation va aussi continuer d'évoluer pour que les gens aient envie de jouer au tennis de plus en plus de monde possible et le plus souvent possible.
Bon, évidemment, tout ça, ça va requérir certaines sommes d'argent. J'imagine, c'est pas facile de réaliser tous ces projets-là. Comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher les fonds nécessaires? Puis c'est quoi à moyen terme? Comment on peut vous aider? En gros, c'est un peu ça ma question. Comment on peut vous aider pour aller chercher de l'argent pour pouvoir continuer à faire progresser ces chantiers-là?
Il faut pas oublier qu'on est une OBNL comme toutes les autres structures de tennis, organisations au Québec et au Canada. Donc, tout ce qu'on reçoit comme argent est réinvesti essentiellement dans le sport. On a une petite permanence avec 4 personnes, comme disait Nicole. Donc, ce n'est pas les opérations qui vont chercher beaucoup de nos revenus ou de nos entrées de fonds. Mais bon, donc, c'est les abonnements, c'est les cours, c'est le sport-études, c'est le programme Excellence, c'est nos partenaires aussi au niveau gouvernemental, municipal, Ville de Montréal en premier, évidemment. Et on va travailler aussi à amener d'autres partenaires dans Tennis Montréal là, qui sont intéressés au niveau commandite et tout ça, à participer avec nous à la croissance du sport. Et il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder le tennis comme un véhicule marketing aussi de plus en plus. Donc, c'est les 3 sources de revenus qu'on regarde là, pour réaliser nos projets.
Puis comment Tennis Montréal interagit, c'est peut-être une question pour les deux, là, avec les autres associations de tennis locales, parce que j'imagine que, bon, Tennis Montréal doit être pas mal la plus grosse, là, en tout cas, si je me fie à la population de Montréal. Est-ce que ça sert de leader pour les autres associations? Comment ça fonctionne, cette relation-là, avec les autres associations? C'est peut-être plus une question pour Nicole, là, qui est dedans depuis longtemps.
En fait, les associations régionales, telles que nous sommes, évidemment, on est la plus grosse au Canada présentement. C'est un modèle qui a été mis en place depuis fort longtemps, qui a été évidemment bonifié par les années, et que Tennis Canada a reconnu à peu près, je dirais, une dizaine d'années comme modèle à suivre avec notre structure. Évidemment, la Ville de Montréal n'est pas une petite machine, alors à partir du moment où tu réussis à faire quelque chose avec ce genre d'institution, après ça, tu peux aller avec n'importe quelle autre municipalité qui sont généralement beaucoup plus petites, beaucoup plus personnalisées. Dans une petite ville, tu rentres à la mairie puis tu fais tes affaires. Ici, moi, Mme Plante n'est jamais venue s'asseoir devant moi dans mon bureau. Là. On s'entend que je ne transige pas avec elle. Il y a énormément de paliers. Alors, à partir du moment où toute cette façon de faire a été reconnue par Tennis Canada, qui est quand même notre entité. Tu sais, nous, on est régi par Tennis Québec et Tennis Canada en premier lieu. Ben, à partir du moment où notre entité nous reconnaît, mais je pense qu'on est en mesure de dire que notre structure, elle est solide. Bon, financièrement, on est très bien positionné. Ça n'a pas toujours été le cas. Il ne faut pas penser qu'on en est là sans embûches. Il y en a eu au cours des années. Mais par contre, là, on peut dire que la vitesse de croisière, elle est là, puis elle est là pour prendre son envol, puis prendre surtout de la vitesse. Alors, comment on se situe par rapport aux autres associations? Je serais portée à dire comment se situe-t-on par rapport aux autres associations sportives à Montréal? Parce que là, je présume que Hugues va probablement vous faire aussi l'annonce là, qu'on a rapporté un très beau prix. Mais par contre, moi, j'ai toujours essayé de voir où est-ce que je me situais par rapport au soccer, au hockey, et je voulais définitivement pas arriver en bas de troisième. J'ai beaucoup d'espoir dans la vie, mais d'essayer de dépasser le soccer, on n'y arrive pas, en nombre en tout cas. Et puis, dépasser le hockey, ben qu'est-ce que vous voulez? Le hockey est encore un sport quasiment religieux. C'est le jour où on parlera, nous, au tennis, autant qu'on parle de hockey dans les nouvelles, aux médias ou quoi que ce soit, ne serait-ce que juste augmenter un peu, je pense qu'on va franchir une ligne très importante. Je pense que maintenant, avec les bons résultats canadiens, on va peut-être prendre notre place. Alors, c'est pour ça que je vous dis de se comparer aux autres associations, puis c'est pas prétentieux. Que voulez-vous? On n'est pas une petite association, on fait partie des grosses associations tennistiques. Alors, on ne donnera pas notre place, on va la garder, puis on va la conserver, puis on va faire en sorte qu'on demeure numéro un.
Oui, puis ben, tu as souligné, Nicole, il faisait allusion, on en a parlé il y a quelques semaines aussi, mais quand même, Tennis Montréal a été reconnu comme, comme l'association sportive régionale de Montréal lors du Gala Podium il y a quelques semaines. Donc, c'est une consécration pour l'organisation et pour Nicole aussi. Je dirais que c'est la façon idéale de sortir de ce rôle-là où elle a laissé une marque qui est maintenant reconnue aussi au niveau de la ville de Montréal. Là. Donc, il y a une très belle reconnaissance là, qui est tout à fait méritée pour l'association.
Ouais, ben, félicitations pour ça, Nicole. Et Hugues, ça veut dire que tu as maintenant de grandes chaussures à chausser.
Absolument.
Parce qu'il va falloir que tu suives le rythme. Et ouais, c'est un peu difficile de se comparer au hockey parce que le hockey est une donnée aberrante là, dans le système sportif québécois au sens où ça n'a rien à voir avec les autres sports. Puis je le sais parce que... mon principal revenu vient du hockey, justement. Là, le tennis est une grande partie de ma vie, mais je gagne beaucoup plus ma vie avec le hockey. Ben Nicole, merci infiniment de vous être joint à nous. Félicitations pour cette belle carrière. Et ben, je pense que vous allez pouvoir partir à la retraite la tête tranquille parce que vous avez la bonne personne en place, j'en suis absolument convaincu, pour amener justement Tennis Montréal en version 2.0. Félicitations à nouveau. Et puis, vous revenez nous jaser de tennis quand vous voulez. Là, vous êtes invité, vous avez une carte chouchou. Là, venez, vous écrivez à Hugues, là, venez nous jaser de tennis, ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir pris ce temps-là pour marquer une carrière. C'était la mienne. Bonne journée à vous.
Ben, félicitations et merci beaucoup, Hugues. Ben, de notre côté, on va faire une courte pause et on va revenir avec ben, la Coupe Davis parce que, ben, ouais, on est champion du monde.
Yes!
Oui, Hugues, félicitations encore pour ce poste et félicitations encore à Nicole Nobert pour sa belle carrière au sein de Tennis Montréal. Puis mon but, c'était pas de t'envoyer des fleurs inutilement, mais je le pense. Puis je sais que tu es un passionné de tennis. Puis je pense que tu vas triper bien gros à être dans le tennis à temps plein, mon ami. Puis ben écoute, bonne chance. C'est sur ça que je vais clore le bloc tennis Montréal. Nico, nous, on te voit. Si jamais t'es dans la possibilité d'intervenir avec nous, tu voulais te joindre à nous. Hugues, je disais d'entrée de jeu que le Canada est champion du monde et ne l'aura pas volé, ou presque. On y reviendra, ou presque. Ouais. Mais
bon, allons sur le championnat d'abord. Moi aussi, j'en ai parlé un peu dans mon intervention avec Jean-Charles Lajoie ce matin, mais c'est quand même... écoute, hier, en l'espace de 20 minutes, on est devenu champion du monde du tennis, de la Coupe Davis. 20 minutes après, Alphonso Davies marquait le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Beaucoup d'émotions hier là, pour le fan de tennis et de soccer que je suis. Gagner la Coupe Davis, là, c'est une consécration énorme pour le Canada et son développement du tennis. Je regardais l'historique de la Coupe Davis, qui est un des plus gros trophées du sport, de tous les sports, tous sports confondus. Là, ça existe depuis 1900, depuis l'année 1900, imaginez, un siècle là, et plus pour la Coupe Davis. Seulement 16 pays, Alex, ont remporté la Coupe Davis sur ces plus de 100 années-là. Donc, t'imagines, on fait partie de ce groupe sélect de 16 nations à avoir été champions. Plusieurs pays ont gagné à plusieurs reprises, justement, je pense aux États-Unis, à l'Australie dans les grandes années, l'Espagne, la France. Et le Canada, maintenant, rejoint ce groupe d'élite et fait partie, est au sommet de la pyramide du tennis. Je pense que beaucoup de gens devaient sourire hier soir. Je pense au Louis Borfiga, mais aussi à tout l'historique, tous les gens qui ont amené cette nation-là où elle est. Les Régent Genois, Eugène Lapierre, évidemment, Richard Legendre et tant d'autres qui ont fait que le tennis est passé d'un sport où qui était plus, comment dire, un loisir régional, je dirais, pour le pour l'amateur moyen à une situation où on fait maintenant partie des modèles de la planète au niveau du développement du tennis et de la performance. C'est incroyable ce qu'on a accompli depuis une vingtaine d'années. Tu te souviens, Alex, on se battait pour sortir du groupe Amérique il y a encore pas très longtemps. On réussissait même pas à se rendre aux qualifications pour le groupe mondial. Donc, c'est phénoménal là, ce qu'on a atteint hier. C'est une grande, grande victoire pour le Canada.
Ouais, je veux qu'on insiste sur la pertinence et la signification de cette victoire-là, parce qu'on en a parlé souvent, la Coupe Davis a peut-être un certain déficit de notoriété en Amérique du Nord particulièrement, mais c'est une compétition que tous les grands joueurs veulent gagner au même titre que les grands chelems, au même titre qu'ils veulent être numéro un mondial. C'est une des... Tu sais, on a parlé de la Coupe ATP au début de la saison, mais il n'y a pas de comparaison possible en termes de prestige entre la Coupe ATP que le Canada a gagné par ailleurs.
C'est quand même incroyable. Hein? On gagne les deux trophées par pays dans la même année. On n'a pas beaucoup parlé, mais il faut le souligner quand même là, que la même équipe, en gros, là, avec Dennis et Félix comme leaders, remporte l'ATP Cup en début d'année et termine l'année avec une Coupe Davis. Mais tu as raison, Alex, le trophée, le fameux saladier d'argent, comme on l'appelle, c'est le trophée ultime du tennis par nation. Ouais.
Et l'Espagne sourit d'une manière au Canada en Coupe Davis. Et bien, en compétition internationale, on a gagné contre l'Espagne la Coupe ATP au début de la saison.
Oui.
Bon, là, on vient de gagner à Malaga en Espagne. La dernière finale de la Coupe Davis avait été jouée en Espagne.
Oui.
Et en 2015,
c'est fou, hein? Ouais.
Et en 2015, attends, j'ai pas terminé. La Coupe Davis junior remportée par Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov en Espagne.
En 2015.
Exactement. En 2015, et Félix et Denis se joignent à un groupe sélect de joueurs qui l'auront remporté chez les juniors et chez les pros, et c'est pas banal. Je trouve ça incroyable de voir, finalement, les deux prodiges canadiens réaliser presque l'impossible d'une certaine manière, parce que c'est la Coupe du monde de tennis dans mer où il y a tellement de bons pays. Enfin, et... Ouais, vas-y donc, tu avais l'air de vouloir dire, de vouloir
rejeter. Louis Boffigan nous en a parlé aussi. C'est une génération dorée qu'on a aussi. Oui, il y a le développement, puis il y a une profondeur, puis ça va continuer. On était heureux de voir nos deux autres Québécois, à part Félix, donc Gabriel Diallo et notre ami Alexis Galarno, qu'on réinvitera très bientôt au podcast d'ailleurs, sur le banc pour encourager l'équipe, mais qui était prêt à jouer. Mais quand même, on a deux joueurs exceptionnels en Félix et Denis Shapovalov. Et il y a eu une passation de pouvoir qui s'est faite, parce que c'est un petit peu le thème ce midi. Milos Raonic a écrit un très beau message vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux hier. Et si on est là où on est rendu, ben c'est parce que des joueurs comme Milos et Vasek, pas spécial qui fait le pont aussi parce qu'il jouait avec l'équipe cette année, nous ont amené là où on était. Mais on est rendu à un niveau où on peut aspirer à gagner contre n'importe quelle nation. C'est quand même une évolution. Qui est phénoménal. Et encore une fois, que Félix et Denis a gagné en 2015 cette Coupe du Monde, cette Coupe Davis Junior, et la gagne chez les adultes en 2022. Après avoir fait une finale aussi, ça démontre là où on est rendu. Et je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais on peut vraiment être fiers. On est vraiment excités de ce qui se passe au niveau du soccer. En ce moment, je fais un parallèle encore avec des Jonathan David, avec des Alphonso Davies, qui sont parmi les meilleurs au monde. Je fais le parallèle parce que on a un cycle de développement de sports de niveau mondial. C'est pas des sports qui se jouent en Amérique seulement ou qui se jouent dans des pays de froid, je vais le dire comme ça, où on est maintenant au Canada parmi les meilleurs au monde. Donc, au soccer, au tennis, on a peut-être un cycle d'avance, je dirais, au niveau du tennis avec notre équipe de Coupe Davis par rapport à l'équipe du mondial au soccer en ce moment. Mais il y a une redéfinition, il y a un rebrassage des cartes au niveau du sport au Canada qui se fait en ce moment et qui intéresse beaucoup de monde et qui a un impact sur les loisirs que les gens font, que les jeunes font au quotidien. Tout le monde commençait par le hockey à l'époque, à mon époque. En tout cas, moi, j'ai commencé à jouer au hockey avant de jouer au tennis. Et maintenant, on commence par différents sports. Ça peut être le soccer, ça peut être le tennis, ça peut être aujourd'hui, ça peut être le basket, évidemment. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de voir cette évolution et comment nos fédérations on réussit à nous placer au plus haut niveau mondial.
Ouais, ben écoute, puis on en parlait, c'est grâce à notamment des organismes locaux comme Tennis Montréal qui développent la base. C'est en partie pour ça qu'on est rendu là aujourd'hui. Je te parlais de Félix et de Chapeau qui sont devenus un groupe sélect de joueurs à remporter la Coupe du Monde, je vais le dire comme
absolument.
Ça, la Coupe Davis. Autant chez les juniors que chez les professionnels ou enfin chez les seniors. Sais-tu comment il y a de joueurs qui l'avaient fait avant eux?
Je pense que tu vas me le dire.
8, 9.
Ah, voilà.
Et ils sont les 9e et 10e joueurs dans l'histoire à réaliser cet exploit-là. Quand il n'y a pas 10 joueurs qui ont fait ça avant toi, là, c'est dire l'exploit que c'est. Et on est champion pour la première fois dans l'histoire et c'est
Allez, phénoménal. Je vais rajouter un petit truc là-dessus. Puis, si on regarde les noms. Je parlais des grandes nations de tennis historiques. Là. Je pense aux États-Unis, à l'Australie, à la France, à l'Espagne. Quand on pense à ces nations-là, là, imaginez les plus grands noms du tennis. Là. Imaginez John McEnroe, Rod Laver, Roy Emerson. C'est ces gens-là qui ont bâti aussi la légende de la Coupe Davis. Et c'était extrêmement important pour ces joueurs-là d'être présents au rendez-vous de la Coupe Davis. Donc, on rejoint encore une fois un groupe extrêmement sélect des plus grands du tennis là, du dernier siècle. C'est un moment à marquer d'une pierre blanche. Là. C'est un grand jalon qu'on vient de poser ce week-end en remportant la Coupe Davis.
Là, on a parlé de la signification de tout ça. Décortiquons un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Parce que, écoute, là, on finit avec le trophée dans les mains, mais ça aurait très bien pu se passer autrement, parce que dès le premier tour contre l'Allemagne, mon cher Hugues, on était à 1-7 de voir le Canada se faire éliminer dès le premier tour de cette finale-là.
Oui.
On a eu chaud là, contre l'Allemagne. Oui.
Ben, première chose, Félix a pleinement et au-delà, j'ai envie de dire, assumé son rôle de numéro 1 de l'équipe. Aucune défaite ce week-end. Et soyons clairs, il a un peu sauvé les meubles. Bien que Denis Shapovalov a bien joué ses matchs, il a quand même échappé ses deux premiers simples qui plaçaient Félix dans une situation où il ne pouvait pas perdre parce que c'était des 2-3. Donc, Félix s'est retrouvé à deux reprises à jouer le deuxième simple qu'il devait absolument gagner, ce qu'il a fait contre l'Allemagne d'abord et contre l'Italie après. Et en plus, il a dû jouer le double dans le match de samedi. Et il a pas échappé un match. Donc, Félix a été grandiose. Denis a extrêmement bien joué aussi. Et bon, deux défaites en 3-7, mais la manière dont il a conclu le double avec Vacek Pospisil lors du match contre l'Allemagne, c'était de toute beauté. Contre une équipe allemande, qui avait jamais échappé un match en Coupe Davis. Alors, quand on a vu le match-up du troisième match, en double, on s'est dit, oh, ça augure pas très bien. Et Denis et Vacek Pospisil ont été admirables. Et la manière dont Denis a joué la fin du troisième set.
Ouais.
C'était du grand Denis qui arrive à une vitesse que peu de joueurs du circuit réussissent à atteindre. Il m'a bluffé à la fin du match. Ça a vraiment été grandiose, mais ça a été une rencontre difficile. Tu as tout à fait raison.
Difficile émotionnellement aussi.
Ah, ouais.
Nous-mêmes, à un certain moment donné, on se disait, ben, Colin, ça va-tu s'arrêter là? Quel dommage.
Ouais.
Avec l'équipe qu'on avait. Et tu as raison de souligner Chapeau dans le match contre l'Allemagne, parce que je pense que Vacek n'a pas servi aussi bien que ce à quoi on est habitué dans le cas de Vacek.
Ouais.
Et c'est vraiment Chapeau qui a sauvé les meubles dans ce match-là et qui a permis au Canada éventuellement d'affronter l'Italie. Et ça, c'était une autre bonne nouvelle. Parce qu'on rappelle-toi la semaine passée, quand on regardait le tableau, on se disait, ouf, bon, la partie de tableau du Canada, elle est plus compliquée. Ça risque de se gagner dans le haut du tableau là, parce qu'il y avait les États-Unis qui jouaient contre l'Italie et les États-Unis avaient toute une équipe. C'était une bonne nouvelle d'une certaine manière, mais les Italiens étaient très forts. Les Italiens ont sorti les Américains et là, ben, on avait les Italiens avec un gars comme Berrettini qui était là. Et là, encore une fois, ça a été un peu compliqué parce que Shapovalov a perdu son premier match. Et c'était quoi ton analyse de cette confrontation-là?
Tu parles du premier tour avec l'Italie, avec l'Allemagne?
Du match contre l'Italie, non, du match Canada-Italie au deuxième tour.
Ben, encore une fois, ça a été une surprise de voir Berrettini jouer le dernier match parce qu'il était blessé, il était sur le banc depuis le début des rencontres. On a eu une petite crainte là, parce que quand même Fognini avec Berrettini, c'est une sacrée équipe de double, bien qu'il ne soit pas si habitué que ça à jouer en double apparemment. Mais encore une fois, je pense que notre paire de doubles a été juste exceptionnelle. Puis là, quand on retrouvait donc Félix en double dans ce match-là, Félix avec son gros service a donné des volées quand même assez faciles pour Vašek. Donc on a quand même bien géré ce match-là. Je dirais que la sortie des États-Unis a été un peu surprenante. On s'attendait à voir peut-être les Américains passer avec Taylor Fritz, avec Tiafoe. Mais bon, on s'est jamais
controversé.
Oui, oui.
D'ailleurs, ça a été controversé, ouais, parce qu'on avait peut-être le meilleur joueur de double au monde et on ne l'a pas fait jouer. Ça a été un peu controversé, cette décision-là des États-Unis, mais ça ne dérange pas, on ne passera pas trop de temps là-dessus parce qu'on en a bien en masse à dire sur le Canada. Mais tout ça pour dire que finalement, tu sais, chapeau, ça s'est joué à peu de choses, ouais, son premier match. Ça aurait pu faciliter les choses au Canada s'il l'avait remporté.
Non, il a tout donné. Hein. On peut pas dire qu'il a mal joué. Il est tombé contre des adversaires en grande forme, je pense notamment à Sonego. Donc non, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'il devait surtout il devait mal filer, de retourner au vestiaire et de dire « Félix, il faut que tu nous sauves encore. » Je te dis, c'est des situations au niveau émotionnel qui devaient être extrêmement difficiles pour Denis. Mais encore une fois, sa performance en double contre l'Allemagne et sa performance dans le premier Saint-Pierre, donc il a gagné quand même de belles façons. Je crois que c'est 6-4, 6-3 ou 6-3, 6-4. Il a contribué de manière éclatante quand même à ce trophée-là.
Mais parlons-en de cette finale-là, parce que bon, là, on se disait, on affronte l'Australie, qui était peut-être un peu surprenant de les voir là, quoique leur partie de tableau. Il y avait quand même l'Espagne sans les gros canons, mais l'Espagne a tellement de profondeur que on se demandait si c'était pas eux qu'on allait revoir en finale une fois de plus. La Croatie avait pas une mauvaise équipe parce que Marin Cilic était là. Moi, je pense que c'était quand même une surprise de voir l'Australie là. Oui. L'Australie sans Nick Kyrgios, mentionnons-le.
Exact. C'est le premier simple.
Alex Dominar, qui avait embêté Chapovalov cette année, par ailleurs. Ouais.
Ben, il faut rappeler Alex, puis on en a parlé à quelques reprises cette année aussi, le format de la Coupe Davis fait en sorte que des fois, on va pas retrouver l'équipe numéro un en grande forme au bon moment. C'était le dernier tournoi de la saison, d'une longue saison. Hein. N'oubliez pas que le tennis, ça se joue presque 48 semaines par année. Il n'y a aucun sport qui se joue dans un mode aussi continu que ça. Donc, il y a des joueurs qui vont faire l'impasse à quelques reprises sur la Coupe Davis ou qui vont choisir quelle rencontre ils vont faire. Ce qui fait qu'il peut y avoir des surprises quelques fois. Mais les pays qui se retrouvent en ronde finale, les 8 pays qui étaient présents, c'est les grandes nations de tennis. Puis comme tu le disais, il y a beaucoup de profondeur. Donc, il n'y a aucun match qui peut être acquis d'avance. Donc, c'est un trophée qu'il faut aller chercher là, sur ce dernier week-end-là. Et ça demande un effort considérable pour y arriver. On y est arrivé, mais ça aurait pu se terminer contre l'Allemagne aussi. Donc, c'était un week-end fort en émotion. Puis encore une fois, je tiens à souligner la force mentale de Félix Auger-Aliassime de jouer dans ces situations-là où c'était do or die. Après un mois d'octobre et de novembre extrêmement occupé pour lui, nous, on craignait un peu qu'il soit un petit peu fatigué en bout de ligne, mais il a performé d'une manière admirable. Là. Moi, ça ajoute à mon niveau d'admiration pour Félix encore une fois ce matin.
Le Canada a bien fait les choses en remportant les deux premiers matchs là, dans le cas de Chapeau et de Félix. Alors, ça a été une belle victoire. C'est une victoire historique pour le Canada. Cela dit, quand même un certain bémol, puis je ne veux pas jouer les troubles faits, mais ça a été souligné par des joueurs notamment. Bon, on va se le dire, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents. Le Canada est rentré par la porte d'en arrière. Tu peux-tu rappeler pourquoi, Hugues?
Oui, ben donc dans les matchs de qualification, on avait perdu quand même contre les Pays-Bas.
Au premier tour,
effectivement. Du fait que la Russie a été exclue de la compétition par l'ITF et en vertu du classement du Canada qui était très bon. On est rentré donc dans le groupe mondial pour la phase finale. Donc oui, il y a eu un peu de chance. C'est ce qu'on appelle un lucky loser là, pour ceux qui suivent un peu le tennis là, dans le tableau des qualifications. Souvent, une des dernières personnes à perdre va être inclus dans le tableau principal. C'est des joueurs qui se retirent tardivement. Donc c'est le concept du lucky loser. C'est un peu ce qui nous est arrivé dans le cadre de la Coupe Davis cette année. Mais je répète encore une fois, il a fallu aller gagner quand même contre l'Allemagne, contre l'Italie, contre l'Australie, cette Coupe Davis-là. Donc, elle est entièrement méritée. Mais oui, le contexte actuel où il se passe des choses bizarres au niveau des classements, de par la situation avec les Russes et avec l'équipe russe, fait qu'il y a des situations un peu étranges. Parlons juste des 2000 points que Novak Djokovic n'a pas pu toucher cette année dans ce contexte-là aussi, évidemment, où aucun point a été donné à Wimbledon cette année, où l'équipe russe était exclue. Donc, ça fait partie du contexte et on a fait le maximum avec le contexte. C'est tout ce que je veux dire. On l'a gagné et ils n'ont pas moins démérité pour ça.
D'ailleurs, tu parlais de Novak Djokovic, et je ne sais pas si tu as vu ça, mais il était présent pour cette finale-là.
Oui,
et il était, semble-t-il, là pour encourager, on le sait maintenant, c'est un de ses amis, Vacek Pospisil.
Oui, ils sont très près de lui. Oui.
Il était même dans le vestiaire du Canada après la victoire. C'est quand même intéressant de voir le numéro un mondial, tu sais, Novak, il pourrait avoir d'autres choses à faire. La saison a déjà été bien assez longue, quoique pour lui, elle a été moins longue que pour d'autres. Mais c'est intéressant de voir Novak venir dire un félicitation aux Canadiens, dans le fond. C'est une belle marque de respect, d'une certaine manière.
Oui, oui. Et écoute, il assume... Moi, je suis très admiratif du fait qu'il se soit présenté pour la phase finale de la Coupe Davis. Je dirais qu'il assume son statut de numéro un officieux, parce qu'on a parlé la semaine dernière, bien qu'il soit cinquième au niveau comptable sur le classement ATP, s'il avait touché les 2000 points de Wimbledon, il serait à égalité, voire au-delà d'Alcaraz aujourd'hui. Donc, je pense qu'il met son empreinte aussi sur... le monde du tennis en général, puis effectivement, il est près de Vacek Pospisil. Ils ont ensemble initié ce syndicat des joueurs il y a quelques années, qui est parallèle à l'ATP. Mais Novak, pour moi, ce geste-là est tout à son honneur. Effectivement, il aurait pu prendre des vacances, faire autre chose. Donc, le fait qu'il ait été présent à Malaga pour assister à la victoire du Canada et à la finale de la Coupe Davis, c'est très admirable de sa part là, d'y avoir été. On sait maintenant qu'il va jouer en Australie au début de l'année. Donc Novak est maintenant au sommet de la pyramide, et le fait qu'il s'implique sur la Coupe Davis à la fin comme ça, c'était très bien aussi.
Pour en revenir à la légitimité de la victoire du Canada, pour ceux qui la remettraient en doute, écoutez ceci. Là, bon, évidemment, le Canada avait perdu contre les Pays-Bas.
Oui.
Dommage pour le Canada. Il faut dire que Denis et Félix n'étaient pas là non plus.
Oui.
Et je pense que tu sais comme moi que tu veux que ton champion du monde soit une des meilleures équipes au monde. Et ça, le Canada a prouvé qu'il était... non seulement une des meilleures équipes, mais cette année, la meilleure équipe au monde, sans même aucun doute, je dirais, si on regarde avec la Coupe ATP au début de la saison. Alors, évidemment, le Canada avait perdu sans ses meilleurs joueurs, mais quand les meilleurs joueurs ont été là, ils ont tout raflé. Et puis, je pense que ça prouve en soi la légitimité de cette victoire-là. Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu y vois une perte de crédibilité à cause de cette défaite-là du premier tour? Tour de qualification.
Ben, encore une fois, comme je l'ai dit, on joue avec le contexte qui nous est donné et on fait au mieux avec. Donc, le classement du Canada faisait en sorte qu'ils ont pu être repêchés. Donc, ce classement-là a été accumulé au fil des années aussi, il ne faut pas oublier. Donc, le classement mondial qu'on a, qui se poursuit là, pour aujourd'hui et pour la suite, donc c'est un classement qu'on a mérité, qu'on a gagné au fil des rencontres de Coupe Davis. Donc, non, moi, je pense que cette Coupe Davis-là, elle est 100% légitime. Je mets aucun bémol sur ce que l'équipe a accompli, surtout de la manière qu'ils l'ont accompli ce week-end à Malaga. Donc non, moi, je ne veux même pas rentrer dans cette discussion-là. C'est un contexte et on a fait au mieux avec le contexte qui nous a été donné.
Hugues, ça ne dérange pas, on va faire une autre courte pause. Au retour, on va parler de Bianca Andreescu. Il y a des nouvelles de son côté. Puis on a des nouvelles de la Coupe, la United Cup qui remplace d'ailleurs la Coupe ATP. peu qu'on a appris cette semaine que Bianca Andreescu faisait des changements dans son entourage. Elle va maintenant travailler avec l'entraîneur Christophe Lambert, pas l'acteur, évidemment. Là, si vous êtes un peu un fan de cinéma, Christophe Lambert, l'acteur a une belle carrière, mais c'est pas lui. C'est un ancien de Tennis Canada, d'ailleurs, Christophe Lambert. Donc, Bianca l'a bien connu. Il travaillait présentement à la direction de tennis en Nouvelle-Zélande. Alors, est-ce que tu penses que ça va être une pièce intéressante pour ramener Bianca au sommet? Tu penses quoi de cette nouvelle-là?
Oui, je pense que Bianca gagne à travailler avec quelqu'un qu'elle connaît bien. Elle sait qu'elle va être à l'aise avec lui. Bianca a démontré des belles choses cette année, en 2022. Moi, je pense qu'elle a envie de revenir aussi au niveau psychologique. Elle est motivée maintenant. Donc, pour moi, le fait qu'elle prenne des actions très concrètes comme ça en vue de 2023, ça peut que nous laisser présager des belles choses pour l'année qui s'en vient. Et on pense encore, tout je crois ici au Radio Podcast, qu'une Bianca en forme peut revenir dans le top 10 et assurément une des meilleures joueuses, sinon la meilleure joueuse au monde. Donc, moi, je pense qu'elle est prête à revenir et à bousculer pas mal de choses dans l'ordre du tennis féminin à son retour.
Elle travaillait avec Sven Grønneveld, oui. Je ne sais pas si je la prononce comme il faut, depuis l'été 2021. Bon, ouais. Écoute, elle est encore jeune, Bianca. Là, elle a tellement d'expérience sur le circuit, on en parle depuis tellement longtemps, mais elle n'a que 22 ans, Bianca Andreescu. Alors, écoute, on verra qu'est-ce que ça donnera pour le début de la saison. Dans le cas de Bianca, je pense que entraîneur ou pas, la principale chose, c'est est-ce qu'elle sera en santé. Si elle est en santé, on sait tout ce qu'elle peut faire. Alors, j'ai hâte de voir, mais peut-être que l'entraîneur peut jouer un rôle dans le conditionnement physique, dans la façon de se préparer, dans la façon, je sais pas. Peut-être qu'il y aura moins de blessures. Enfin, on verra de ce côté-là. Mais tu sembles dire que bon, ça peut pas être mauvais dans les circonstances. Pour Bianca. Je voulais qu'on parle aussi rapidement, Hugues, avant qu'on termine l'épisode de la United Cup qui sera jouée au début janvier. Et il y a beaucoup de monde qui nous demandait à savoir pourquoi est-ce que le Canada n'y sera pas, pourquoi le Canada ne jouera pas cette compétition-là. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la United Cup est un peu une version modifiée de la Coupe ATP qui ressemble étrangement à la Coupe Hobart qu'on avait il y a quelques années, qui est une coupe mixte où les résultats masculins et féminins sont cumulés. Bon, la raison pour laquelle le Canada n'est pas là, c'est que c'est pas une compétition par fédération, c'est une compétition par inscription individuelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tes meilleurs joueurs et ton classement, il est fait en fonction de tes joueurs qui sont inscrits. Alors, c'est pas Tennis Canada, c'est pas le Canada qui inscrit les joueurs. Alors, si Félix, si Chapeau ne sont pas inscrits, c'est sûr que ton classement du côté masculin va être beaucoup plus difficile à défendre. Et là, ce qu'on entend, c'est que la saison a été très longue pour Félix et Chapovalov et je pense qu'ils ont décidé de faire l'impasse sur cette compétition-là. Et du côté féminin, paraît-il que Bianca était inscrite, je pense qu'elle est là aussi, a voulu prendre un tour de pause. Alors tout ça pour dire que le Canada n'avait pas le classement entre guillemets nécessaire pour pouvoir participer à cette compétition-là parce que c'est pas, je le répète, une compétition de fédération, mais c'est une compétition individuelle. Toi, cette compétition-là, en toute franchise, est-ce qu'elle t'allume au début janvier? Tu sais, la Coupe ATP, on avait hâte de la voir. Est-ce que toi, tu vas regarder ça, même si le Canada n'y est pas?
Je vais avoir un peu moins d'intérêt, je vais être quand même honnête avec toi, mais ce qui me plaît, c'est le format mix. C'est un peu compliqué d'expliquer aux fans moyens la différence entre la TP Cup et la Coupe Davis, bien que c'est pas la même chose du tout là. Guillaume Marc nous en a bien parlé aussi il y a quelques jours, mais c'était quand même une compétition par équipe masculine. Donc le fait de revenir dans un format mixte par pays, je trouve ça intéressant. Donc oui, mon intérêt va être un peu moins élevé, mais je pense que le rebrassage des cartes pour la United Cup qui remplace maintenant la TP Cup est une bonne chose. Et ce genre de tournoi-là, en début d'année, en Australie, dans les conditions qui vont prévaloir pour l'Australian Open quelques jours, quelques semaines après, c'est une bonne chose pour se remettre en train après la période des fêtes. Une période de vacances, on va se le dire, que la plupart des joueurs et joueuses prennent. Donc, je pense que cette fenêtre-là pour un tournoi de ce type-là, elle est intéressante.
Oui, bien, assurément. En tout cas, c'était le fun d'avoir la Coupe ATP. C'est dommage d'une certaine manière parce que, bon, le Canada, dans le format de la United Cup, serait probablement favori.
Oui.
Exact. Du côté, effectivement, les Russes seraient très forts aussi, côté masculin et féminin. Il y a beaucoup de pays qui sont très forts d'un côté ou l'autre. Les États-Unis seraient très forts côté masculin, côté féminin. Mais, tu sais, par exemple, les Tchèques, qui sont très fortes du côté féminin, un peu moins forts du côté masculin. Les Italiens seraient fort aussi, mais encore là, peut-être un peu plus fort du côté masculin que du côté... Tout ça pour dire que le Canada aurait été une méchante... une équipe très dangereuse. Hugues, c'est notre dernier épisode de la saison régulière de Sur la ligne, parce que notre prochain épisode... Écoute, à moins que je me trompe, là, on s'en est pas parlé en monde, mais le prochain épisode sera la revue de l'année.
Oui.
Alors, j'ai en profité pour te remercier pour cette saison-là, même si je vais le refaire au courant du prochain épisode. Je remercie Nicolas Richard aussi pour toute sa participation. Aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous parce qu'il était à toutes ses affectations pour la presse. Mais je veux remercier aussi tous les gens qui nous suivent de façon hebdomadaire parce que on est bien content de partager notre passion du tennis avec vous. Alors, ce sera le dernier épisode de cette saison régulière.
Alex, on peut dire à tout le monde qu'on travaille toujours, évidemment, à améliorer le podcast, tant au niveau de son contenant que de son contenu. Donc, attendez-vous à voir ce qu'on appelle le podcast Next Gen pour l'année prochaine. On travaille très fort avec Tennis Canada et tous nos partenaires là, pour amener ça encore à un autre niveau. Et donc, l'évolution va continuer.
Tu sais, je pense que les deux premières années, je pense que tu vas être d'accord avec moi, auront contribué à développer l'identité du podcast. Et là, je pense que dans l'année prochaine...
Et l'audience.
Mais je pense que l'année prochaine, ce sera l'année où on va cimenter cette identité-là et vraiment confirmer cette identité-là. Il y aura des changements à venir qu'on vous annoncera au début janvier. On vous annoncera ça au début janvier, mais il y aura certains changements. Mais je pense qu'on va avoir... quelque chose de nouveau, mais pas si nouveau. Enfin, ce sera la confirmation, je pense, du podcast. Ce sera un peu ça, je pense, l'année prochaine. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Je suis un gars de marketing, tu le sais. Donc, en termes d'identité de marque, c'est bien d'avoir une personnalité forte, une personnalité qui nous est propre. Donc, on va vraiment travailler encore sur ces éléments-là pour que vous nous reconnaissiez bien au niveau de la facture sonore, musicale, que les segments soient bien identifiés. Il y a des nouveaux segments qui vont se rajouter aussi en 2023, on peut déjà le dire. Donc, c'est assurément une évolution. Je pense qu'on a mis des bonnes bases. On est content de ce qu'on a accompli, les audiences montent semaine après semaine. On le répète souvent dans les podcasts tennis les mieux classés au monde, semaine après semaine, souvent dans le top 2, top 3 au Canada, mais on fonctionne aussi en France, en Algérie, en Chine même. On est allé dans le top 20, donc on voit que le contenu intéresse beaucoup de gens. Donc, c'est juste une progression, une évolution, mais effectivement, on va cimenter les bases qu'on a établies depuis 3 ans.
Enfin, bien hâte de vous retrouver l'année prochaine, mais avant, il y aura l'épisode de fin d'année, donc il faudra qu'on se parle pour confirmer tout ce qu'on veut mettre là-dedans, parce que l'année passée, on a fait un méchant gros épisode. Ça va être un autre gros épisode, on va essayer de faire ça peut-être un peu plus concis. Enfin, on verra. Hugues, je te remercie infiniment. Comme Nicolas Richard n'est pas là, je vais te donner le lourd mandat de terminer cet épisode du Radio Podcast Sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale.
Bien, bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. À la semaine prochaine.